VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition de ce lundi 30 mars 2015. Au micro, Morgane Guériec et Idrissa Seydoudia. À la une ce soir.
Résultat partiel de l'élection présidentielle au Nigeria, c'est le coude à coude entre le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari.
Burundi, un glissement de terrain à Rutunga fait au moins 10 disparus.
La rivière de Rutunga a complètement dévié de son lit et a pris sur tout son passage de grosses pierres, bousculé toutes les maisons qui étaient sur le passage.
Notre envoyé spécial au Niger, Idriss Fall, nous amène à Diffa, dans l'extrême sud-est du pays, où Boko Haram perturbe les activités économiques.
Le poivron, le poisson, le niémé, tout cela, c'est le produit que vendent les Boko Haram. Ce n'est pas eux qui cultivaient, ce sont les paysans qui cultivaient et ils ont pris avec force, avec armes.
La Guinée instaure une urgence sanitaire renforcée de 45 jours pour lutter contre l'Ebola dans 5 préfectures.
En Suisse, les négociateurs sur le nucléaire iranien mettent les bouchées doubles à 24 heures de la date butoir pour un accord cadre.
Au Yémen, une dizaine de personnes déplacées tuées dans un raid aérien au 5e jour de la campagne militaire arabe contre les rebelles chiites.
Une personne tuée et une autre blessée dans une fusillade devant le quartier général de la NSA, l'agence de la sécurité nationale près de Washington.
Dans moins de 10 minutes, la Minute Éco et les sports, mais d'abord, le journal.
Plusieurs résultats partiels de l'élection présidentielle au Nigeria. Le président sortant, Goodluck Jonathan, et son adversaire, Muhammadu Buhari, sont au coude à coude dans 8 des 36 États que compte la fédération et dans la capitale Abuja. D'après la Commission électorale nationale indépendante, M. Buhari est pour l'instant donné vainqueur dans 5 États, M. Jonathan remportant le scrutin dans les 3 autres États et dans la capitale fédérale. M. Jonathan bénéficie cependant d'une légère avance de moins de 20 000 voix en nombre de suffrages exprimés. Le point avec Jacques Aristide.
Un bras de fer qui tient le Nigeria et la planète en haleine, le président sortant Goodluck Jonathan et son rival de l'opposition Muhammadu Buhari se sont battus jusqu'au bout. Une présidentielle considérée comme étant la plus serrée depuis la fin des dictatures militaires en 1999. Dans un communiqué, l'Union africaine a appelé à recourir aux moyens légaux existants au cas où il y aurait contestation des résultats des scrutins législatifs et présidentiels qui ont, d'après elle, respecté les principes continentaux des élections démocratiques. Depuis l'Europe, le secrétaire d'État américain John Kerry et le secrétaire au Foreign Office britannique Philip Hammond ont estimé qu'il n'y a pas eu pour le moment de manipulation systématique du processus électoral au Nigeria, mais font état d'indications inquiétantes que le processus de rassemblement des votes pour être compté peut être sujet à des interférences politiques délibérées. Réplique très rapide d'Abuja, comme le rapporte l'AFP. Pour la Commission électorale indépendante du Nigeria, ce sont des craintes sans fondement et il n'y a aucune preuve d'interférence politique.
Au Burundi, un glissement de terrain à Rutunga fait au moins 10 disparus. Il y a beaucoup plu dans cette zone située à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Les pluies torrentielles et la boue ont tout emporté sur leur passage. Les équipes de la Croix-Rouge burundaise sont sur place. On écoute Anselme Katiyunguruza, le secrétaire général de la Croix-Rouge burundaise.
La rivière de Rutunga a complètement dévié de son lit et a pris sur tout son passage de grosses pierres. Et voilà, ces pierres ont bousculé toutes les maisons qui étaient sur le passage quand elles descendaient vers de là. Nous avons 10 personnes disparues parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé les corps. On a 3 écoles complètement détruites de 14 salles. Il y a une église également qui s'est complètement effondrée. Un centre de santé complètement détruit. Et la route qui mène de Rumonge vers Bujumbura est coupée sur une distance de 5 km.
Anselme Katiyunguruza de la Croix-Rouge burundaise, joint par Nicolas Pinault.
En Guinée, l'opposition prévoit une journée ville morte jeudi à Conakry pour contester le calendrier des prochaines élections. D'après le député Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition, cette journée ville morte sera le commencement d'un cycle de manifestations qui vont continuer et s'étendre à l'intérieur du pays jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites.
Barack Obama se rendra en juillet au Kenya, terre natale de son père. Le président américain participera au sommet mondial de l'entrepreneuriat. Il s'agira de son 4e voyage en Afrique subsaharienne depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. En juillet 2013, M. Obama s'était rendu en Tanzanie, au Sénégal et en Afrique du Sud, mais pas au Kenya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pourparlers sur le nucléaire iranien se poursuivent à Lausanne, en Suisse, à 24 heures de la date butoir pour la conclusion d'un accord cadre. Un diplomate occidental a dit que trois questions majeures restent en suspens. Michel Joseph.
Selon ce diplomate, l'Iran et les puissances mondiales du P5+1 ne se sont pas toujours entendus sur la durée d'un éventuel accord, le rythme de la levée des sanctions économiques contre Téhéran et comment les imposer de nouveau en cas de violation des termes de l'accord par l'Iran. Il y a urgence, a-t-il également souligné, ajoutant qu'il ne reste plus qu'à dire oui ou non à des heures maintenant de la date butoir. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, s'est entretenu aujourd'hui avec ses homologues américains, britanniques, chinois, français, russes et allemands. L'objectif est d'arriver dans les prochaines 24 heures à un accord cadre qui garantirait la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange de la levée de sanctions draconiennes. Une version finale d'un tel accord est attendue vers la fin de juin 2015.
La violence continue au Yémen, où la coalition menée par l'Arabie saoudite poursuit sa campagne aérienne contre les rebelles houthis en appui au président yéménite Abd Rabbou Mansour Hadi. Les précisions d'Eddie Sango.
Un des raids a fait au moins 45 morts et 65 blessés aujourd'hui dans un camp de déplacés à Adja, dans le nord-ouest du Yémen, selon l'Organisation internationale pour la migration. Des témoins ont indiqué que des ambulances ont eu des difficultés à accéder au camp à cause des bombardements sur la route. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a accusé les rebelles d'être responsables de l'attaque. Les rebelles ont continué pour leur part à bombarder la ville d'Aden, les centres économiques du Yémen, mais ont été repoussé par deux raids aériens. Le président Hadi avait demandé l'aide de l'Arabie saoudite suite à l'impasse des pourparlers de paix avec les rebelles. 5 jours de bombardements aériens ont contraint près de 750 familles des Sanaa à chercher refuge dans des camps des déplacés du nord du pays, selon Reuters.
Ici aux États-Unis, une personne a été tuée, une autre blessée quand un véhicule avec deux personnes à son bord a tenté de forcer l'entrée du QG de la NSA, l'Agence de la Sécurité Nationale, près de Washington. Le FBI a dit à la Voix de l'Amérique ne pas croire que cet incident est lié au terrorisme. Le président Barack Obama a été informé de la fusillade, dit la Maison-Blanche.
Un avion de Turkish Airlines reliant Istanbul à Sao Paulo a été contraint à une escale d'urgence sur l'aéroport marocain de Casablanca à la suite d'une alerte à la bombe qui s'est avérée fausse, a-t-on appris auprès de la compagnie turque. Selon l'agence de presse gouvernementale Anatolie, citée par l'AFP, l'alerte a été déclenchée par la découverte dans les toilettes de l'avion d'une note écrite signalant la présence d'une bombe. Alertée par le personnel commercial de bord, le pilote a conformément aux procédures fait atterrir son avion sur l'aéroport le plus proche.
L'état de santé d'un patient américain infecté par le virus Ebola en Sierra Leone, hospitalisé depuis la mi-mars près de Washington, continue de s'améliorer et est considéré désormais comme assez bon. Cette personne qui travaille dans le secteur médical, dont ni l'identité ni le sexe n'ont été dévoilés, était dans un état critique le 16 mars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le géant pétrolier français Total a annoncé lundi la cession pour 569 millions de dollars des parts qu'il détenait dans un projet pétrolier en cours de développement au Nigeria. Selon un communiqué du groupe, le projet Onshore se situe dans la région du Delta du Niger et a été concédé à la société nigériane Ethio Eastern E&P. Total poursuit son désengagement de projets à terre dans le pays après les ventes récentes de ses parts dans d'autres blocs pétroliers. Des opérations qui ont rapporté au groupe un total de 1 milliard de dollars. En pleines élections présidentielles et législatives au Nigeria, l'agence de notation financière Fitch a placé aujourd'hui la dette du pays sous surveillance négative, comme Standard & Poor's début février, en raison de la chute des cours du pétrole et des risques sécuritaires liés aux insurgés islamistes de Boko Haram. La note souveraine du Nigeria, c'est-à-dire l'évaluation de sa capacité à rembourser sa dette, était déjà fixée à BB- par Fitch, une note basse dans l'échelle d'évaluation qui place la dette nigériane dans la catégorie des investissements spéculatifs. Le constructeur automobile suédois Volvo Car a annoncé ce lundi qu'il allait investir 500 millions de dollars pour bâtir sa première usine aux États-Unis, pays où sa part de marché est aujourd'hui marginale. L'usine américaine, dont l'emplacement reste à décider, sera la cinquième de l'entreprise qui s'est nettement redressée depuis 2 ans avec l'aide de son propriétaire chinois, le constructeur Geely. Les véhicules vendus aux États-Unis, où la marque suédoise est présente depuis 1955, sont actuellement tous importés.
Bien sûr, vous avez reconnu Félix Yepasis Zemrou qui nous présentait la Minute Éco. C'était sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Merci Félix.
Les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Mangan.
Match amicaux terminé pour le Cameroun.
Mené à la pause, le Cameroun s'est imposé en Thaïlande 3-2 grâce notamment à Mukanjo, buteur puis passeur. Les Lions indomptables bouclent leur tournée asiatique avec 2 victoires.
Le Gabon accroché en Turquie.
À Antalya, les Panthères gabonaises et la Biélorussie se sont quittés sur un score nul et vierge, 0-0, c'était en amical. Le Gabon qui avait battu la semaine dernière le Mali 4-3 lors d'un autre match amical. Et puis un autre résultat ce lundi soir, l'Algérie a battu Oman 4-1 en match amical disputé à Doha.
La Côte d'Ivoire, elle, a été accrochée sur son terrain.
Victorieux de l'Angola 2-0 la semaine dernière, les éléphants ont concédé le nul face à la Guinée équatoriale dimanche devant leur public à Félicia. Partant sec cette fois, les hommes d'Hervé Renard, disposés dans leur habituel 3-4-3, s'assuraient d'emblée la possession mais se faisaient surprendre en contre sur un long ballon de Randy Iban, semé Viera et venait battre de près Sayouba, resté sans réaction sur sa ligne. Gradel a réussi à égaliser 1-1, score final entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale.
La CAF et la Tunisie enterrent la hache de guerre.
La Fédération tunisienne de football a estimé que son conflit avec la Confédération africaine, après l'élimination controversée de la Tunisie lors de la CAN, était réglé et qu'elle participerait aux qualifications pour la CAN 2017. Les choses ne sont pas officialisées encore, mais suite à ma rencontre avec Issa Yatou, pour moi, le litige est définitivement réglé, a déclaré à l'AFP le vice-président de la Fédération tunisienne, Maher Snoussi, indiquant que le recours tunisien devant le tribunal arbitral du sport allait être retiré. Je vous rappelle que la CAF avait donné jusqu'au 31 mars à la Tunisie pour présenter des excuses après ses accusations de partialité lors de la CAN 2015, faute de quoi les Aigles de Carthage seraient exclus de la prochaine compétition continentale.
Et la NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, San Antonio finit la saison régulière pied au plancher. Comme l'ont constaté hier, les Grizzlies de Memphis dominaient 89-103. Victoire de Houston à Washington, 99-91. Les Nets de Brooklyn ont dominé les Lakers, 107-99. Les autres résultats de dimanche, la victoire de Cleveland, 87-86 devant Philadelphie. Minnesota qui chute à la Nouvelle-Orléans, 88-110. Victoire de Miami contre Détroit, 109-102. Le beau succès des LA Clippers à Boston, 119-106. La victoire d'Indiana contre Dallas, 104-99. Enfin, Phoenix qui a été battu par Oklahoma City à domicile, 97-109.
Et c'était les sports avec Nicolas Pineau. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia et Morgane Guiriac en votre compagnie, place au dossier du jour.
Nous commençons par le Nigeria où la commission électorale a commencé à publier les résultats préliminaires de la présidentielle. La tension monte dans le pays, notamment dans l'état de Rivers, où la police a dispersé aujourd'hui quelques 2000 femmes de l'opposition qui manifestaient devant les bureaux de la commission électorale à Port Harcourt. Timothée de Nangmaï a joint à Abuja Christopher Fomugno, directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute, le NDI.
Les choses évoluent dans le bon sens, dans ce sens que les populations ne sont plus obligées d'attendre longtemps parce que les résultats sortent à fur et à mesure que la compilation est terminée au niveau des différents États.
Mais justement, au niveau de cette compilation, les États-Unis et la Grande-Bretagne se disent inquiets qu'il y a des risques d'ingérence, d'interférence politique dans le processus. Est-ce que c'est des inquiétudes fondées?
Oui, je crois que ces inquiétudes traduisent aussi un état d'esprit que des populations qui, par le passé, ont connu des élections assez perturbées. Au jour d'aujourd'hui, étant donné que le scrutin du 28 mars s'est très bien passé, s'est passé dans de très bonnes conditions, je crois que c'est le souhait et l'espoir de tout le monde que lors de la transmission des résultats, il n'y aura pas d'interférence et que les résultats qui seront proclamés par la commission électorale indépendante seront vraiment un reflet des voix et des votes portés par les populations le jour du scrutin. Donc, je crois que tout acte qui va dans le sens d'encourager la commission électorale indépendante à continuer à bien faire son travail serait la bienvenue.
La situation la plus préoccupante du moment est sans doute celle de l'état de Rivers où des centaines de femmes de l'opposition ont été dispersées aujourd'hui par la police devant la commission électorale. Est-ce qu'il faut se préoccuper de cette situation?
Oui, il faut reconnaître que l'état de Rivers a connu pas mal de violences pendant la période préélectorale. Donc déjà, avant le 28 mars, on avait des inquiétudes pour le déroulement du processus dans cet état de Rivers. Il faut aussi reconnaître que c'est un état où les deux candidats au présidentiel étaient vraiment côte à côte dans les sondages. C'est un état qui pèse aussi dans l'échec politique. Donc, il y a de quoi rester vigilant. Au moment où nous parlons, il y a l'un des partis politiques qui a déjà saisi la commission électorale indépendante pour demander l'annulation du scrutin dans cet état de Rivers. Donc, c'est un cas assez particulier qui mérite à être suivi de près dans les jours qui viennent.
Christopher Fomugno, directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute, il nous parlait d'Abuja.
Nouvelle mesure drastique en Guinée dans la lutte continue contre le virus Ebola. Les autorités de Conakry viennent d'instaurer une urgence sanitaire renforcée de 45 jours dans 5 préfectures du sud-ouest et de l'ouest du pays en raison d'une recrudescence de cas dans ces zones. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide s'est entretenu avec le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama.
Au départ, l'épicentre de l'épidémie était axé essentiellement au niveau de la région forestière. Voilà, aujourd'hui, cette région forestière est complètement clean en termes de cas. Et l'épidémie s'est transportée au niveau de la zone côtière. Et comme jusqu'ici, nous constations le non-respect de certaines mesures édictées par nos services de santé et par la coordination. Donc, il a fallu que nous retrouvions, sur le plan public, prennent des mesures fortes afin que ces préfectures respectent ces mesures. En termes d'enterrement sécurisé, en termes de déplacement des contacts. Et également, n'oubliez pas qu'il y a aujourd'hui, je prends l'aspect transfrontalier, la Guinée qui fait frontière à la Sierra Leone, où des mesures drastiques ont été prises, donc ont entraîné le déplacement de certains contacts de la Sierra Leone vers la Guinée. Et vous souviendrez que quand je parle de l'aspect transfrontalier, en Sierra Leone, vous pouvez voir une maison dont la porte s'ouvre du côté de la Sierra Leone et la fenêtre se trouve du côté guinéen. Donc toutes ces mesures vont entraîner le respect, non seulement du contrôle de l'épidémie en termes de déplacement des contacts, en termes d'enterrement non sécurisé.
Mais monsieur le ministre, cela veut-il dire que la Guinée peine encore à voir la fin de cette crise sanitaire?
Non, la Guinée ne peine pas. Je dis on est confronté à certaines difficultés, difficultés relatives au respect de certaines mesures édictées par nos services. Je dis au départ, l'épidémie était concentrée au niveau de la région forestière. Mais grâce à la sensibilisation, à l'implication de la communauté, aujourd'hui en région forestière, nous ne recevons plus de cas il y a plus d'un mois. Ça veut dire que c'est une question, je me dis peut-être, de déni de la maladie au niveau de la région côtière. Et c'est pourquoi M. le Président Flick, conscient de ce défi, a pris de nouvelles mesures afin de contrer ces communautés à respecter ces mesures d'hygiène. Il est maintenant interdit de transfert de corps d'un endroit à un autre, j'allais dire, les contacts vont désormais rester sur place pendant les 21 jours. Et toute personne qui s'évertuerait à cacher un malade répondrait devant la loi, devant la justice. Donc ce sont des mesures renforcées afin que nous sortions rapidement de cette situation de crise sanitaire.
Quelle est la situation, très rapidement pour terminer, et êtes-vous confiant qu'on va pouvoir mettre fin à cette épidémie plus tôt que tard?
Oui, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas un problème de chiffres qui m'intéresse, car on est parti d'un seul cas pour en arriver là. Le problème c'est comment arriver à Ebola zéro. C'est pas qu'on dise on a deux patients dans les centres de traitement, il y a tel nombre de contacts. Non, on est parti d'un seul cas pour en arriver là. Donc aujourd'hui l'objectif visé c'est que nous arrivions à zéro Ebola. Et nous sommes dans cette dynamique.
Le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Maintenant, l'extrême sud-est du Niger avec notre série sur l'impact Boko Haram sur la région de Diffa. Les attaques répétées du groupe djihadiste nigérian ont notamment perturbé le commerce, comme nous l'explique Ali Al-Husseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de la région de Diffa. Notre envoyé spécial sur place, Idriss Fall, lui a tendu son micro.
Les commerçants sont les plus touchés. Avec Boko Haram, tout est bloqué au niveau donc de Diffa. Mais Dieu merci maintenant, à partir du 6, 7, 8, nous sommes un peu bloqués dans l'ensemble de la région de Diffa.
L'État a interdit le commerce du poivron et du poisson.
Oui, on soutient l'État. Le poivron, le poisson, le niémi, tout ça là, sont des produits que vendent les Boko Haram. Ce n'est pas eux qui ont cultivé, ce sont les paysans qui ont cultivé et ils ont pris avec force, avec armes. Et aussi, ce qui est grave, ils mettent les armes dans ces sacs pour amener. Totalement, on soutient l'État.
Maintenant, comment font les agriculteurs, ceux qui produisaient le poivron et les pêcheurs qui attrapaient les poissons? Alors, ils vivent comment?
Bon, ça vraiment, tout est bloqué maintenant. Les pêcheurs, la majorité ont quitté le lac Tchad pour regagner leur localité. Les cultivateurs, eux aussi, ils ont quitté le lac. La majorité sont venus vers Ngimi. Mais nous, chez nous, ça nous arrange. Parce qu'avec tout ça, là, ça donne des problèmes à la population. S'il n'y a pas le poisson, s'il n'y a pas le niébé, nous, on gagne partout. Hein. C'est bon d'interdire. Si ça donne vraiment une maladie à la population, il est bon d'interdire. C'est bon. Parce que nous, ça nous arrange. Ça nous arrange beaucoup, nous.
Une bonne partie de votre commerce vient ou bien va vers le Nigeria avec la guerre. Comment ça se donne? Est-ce que vous avez des facilités?
Non. Vous avez Diffa. C'est une localité qui est limitée donc à l'est par le Tchad et au sud par le Nigeria. Avant, dans les années passées, toute activité du commerce, ça s'est fait, nous on fait ça au Nigeria. Mais comme le Nigeria est un pays qui est vraiment dans des problèmes, même nous, le commerce, nous avons stoppé parce qu'il y avait des problèmes. Et même avant que Boko Haram arrive, les problèmes toujours sont, il y a entre le Nigeria et le Niger, là, on a des problèmes de barrières surtout. Il y a tellement de barrières et les autorités nigériennes voient à chaque fois ça menace le commerçant. D'abord, dans leur ville, tu ne te promènes pas beaucoup. On te dit que tu es nigérien, tu es étranger, on te prend, il faut de l'argent pour te ramasser dans leurs mains. Maintenant, tout ce que l'État fait là, c'est très juste et nous sommes d'accord avec ça.
Eh bien, c'était Ali Al-Husseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de la région de Diffa.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Tout sur le verdict des urnes au Nigeria, analyse et commentaires de nos invités. Un scrutin d'ores et déjà jugé démocratique par l'Union africaine, mais des interférences politiques ont quand même été notées. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
On vous le disait en début de journal, le Yémen s'enlise dans le chaos. Les premières victimes du conflit qui oppose les Houthis et la coalition saoudienne se comptent déjà par dizaines. D'un côté, Riyad et ses alliés. De l'autre, les rebelles Houthous, Téhéran et le Hezbollah. Le conflit risque de prendre une ampleur régionale. On fait le point avec Salwa Jafari.
Des boules de feu illuminent le ciel de Sanaa, des prières émanant de presque tous les minarets de la ville. C'était une nuit sans sommeil dans la capitale. Ici, la coalition de Riyad n'y est pas allée de main morte. Dans le nord non plus. L'opération Tempête décisive compte déjà des dizaines de victimes. Riyad s'obstine, s'adressant à la télévision américaine, son ambassadeur à Washington, Adel Jubeir, promet d'y aller jusqu'au bout.
Nous avons une coalition de 10 pays qui participent aux opérations. Nous sommes déterminés à continuer les opérations jusqu'à atteindre notre objectif.
L'objectif étant la reddition des Houthis, contraindre les rebelles chiites soutenus par l'Iran à déposer les armes. Pour ce faire, Riyad a mis en route un projet maintes fois remis dans les cartons. Le projet de force militaire conjointe pourrait enfin voir le jour. Sur les bords de la mer Rouge, à Sharm el-Sheikh, les 21 dirigeants de la Ligue arabe se sont mis d'accord hier sur sa création. On parlerait alors de forces militaires telles que l'Égypte, le Soudan, la Jordanie, le Maroc, rangées derrière la bannière des Al-Saoud, contre les rebelles Houthis et par association contre Téhéran. Téhéran, qui ton père, son ministre des Affaires étrangères, Javad Zavid, a déclaré de Genève qu'il était nécessaire de mettre fin aux opérations militaires et de reprendre le dialogue. La voie de la raison, peut-être pas. Selon un responsable saoudien, il y aurait 5000 Iraniens, membres du Hezbollah et miliciens irakiens sur le terrain. Entre-temps, la population civile est prise en étau. Les habitants commencent à fuir la capitale. Des centaines de ressortissants étrangers ont été évacués, alors que le pays s'enfonce dans une guerre qui prend des dimensions régionales.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Top 10 American Music. Les 10 morceaux qui cartonnent en ce moment ici aux États-Unis et pourquoi pas dans le monde. Les amis, ne ratez pas. Nous allons aussi conclure avec notre sujet de la semaine dernière, la liberté d'expression. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. C'est les 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. C'est les 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Premier résultat partiel de l'élection présidentielle au Nigeria. Le président sortant, Goodluck Jonathan, et son adversaire Muhammadu Buhari sont au coude à coude dans 8 des 36 États que compte la fédération et dans la capitale Abuja.
Au Burundi, un glissement de terrain à Rutunga fait au moins 10 disparus. Il a beaucoup plu dans cette zone située à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale.
En Guinée, l'opposition prévoit une journée ville morte jeudi à Conakry pour contester le calendrier des prochaines élections.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, présentation Morgane Guériec et Idrissa Seydoudia.
Et comme on dit ici, ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui.